Chapitre 68. Depuis qu'il a vu la main en feu, le captif a complètement changé d'attitude. Il semble désormais craindre tout et tout le monde. Alors que deux gardiens le traînent, ligoté sur une planche, un sac de toile sur la tête, il ne cesse de supplier. « Laissez-moi. Où m'emmenez-vous ? » Aucun des hommes ne lui répond. Au fil des couloirs, il l'amène dans une salle bien plus vaste, aménagée pour le nouvel interrogatoire. Toujours entravé, le prisonnier est redressé et maintenu immobile dans un silence absolu. Le sac encore sur le crâne, il tourne la tête dans tous les sens pour tenter d'entendre. Addison s'approche alors de lui sans un bruit et murmure à son oreille.
Votre destin est sur le point de basculer.
En reconnaissant la voix de l'homme au pouvoir diabolique, le prisonnier tressaille et se recroqueville dans ses liens. Il geint, une plainte pitoyable d'animal terrorisé. Vincent se tient en retrait. Il a du mal à reconnaître celui qui, la veille encore, leur tenait tête. Comment ce minable petit voyou a-t-il pu se montrer si dangereux?
Qu'allez-vous me faire?
Sa voix tremble. Il halète sous la cagoule. Charles la lui retire soudain d'un geste brusque. Il plisse les paupières, puis jette des coups d'œil affolés autour de lui. Il s'arrête sur Addison.
Pitié, je ne sais rien.
Chacun des gestes de Charles l'effraie. Il craint plus que tout d'être à nouveau la cible d'un sortilège. Addison prend son temps. En êtes-vous certain?
Sur la tombe de mon père, je vous le jure.
Respectez sa mémoire, il n'approuverait sans doute pas ce que vous avez commis.
Vous pouvez lire dans mon esprit, je m'en fiche, vous verrez que je ne sais rien.
Alors vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. Addison recule et, dans un mouvement théâtral, arrache le voile qui recouvrait une superbe guillotine. Le captif se tétanise.
Vous allez m'exécuter ? Glapit-il.
N'est-ce pas ce que vous comptiez faire à des innocents? Qu'aviez-vous à leur reprocher?
On nous en avait donné l'ordre.
Vous obéissez ainsi sans savoir pourquoi?
Ils étaient des ennemis de notre cause.
Une cause dont vous ne savez pas grand-chose.
Je vous en prie, libérez-moi. Je ne suis rien, je n'ai fait qu'obéir.
L'homme ferme les yeux et psalmodie pour lui-même.
Aurorae sacrum honorem, aurorae sacrum honorem.
Charles tourne autour de lui lentement, tel un loup qui s'apprête à achever sa proie agonisante. Hier, vous étiez le glorieux soldat d'un pouvoir absolu, capable de nous réduire en cendres, et aujourd'hui, vous n'êtes que l'insignifiant rouage d'une organisation dont vous ne savez rien. Charles fait signe à l'un des gardiens qui va alors disposer un chou sur le plateau de la guillotine. Une fois le légume calé, il recule pour se tenir prêt à déclencher la machine à tuer. Le prisonnier ne quitte pas des yeux l'instrument de mort. Au signe de tête de Charles, l'homme tire sur la cordelette qui libère la lame du portique. Dans un sinistre sifflement, le métal s'abat pour venir frapper violemment le chou qui vole, tranché en deux moitiés bien nettes. Le captif ferme les yeux. Il tremble de tous ses membres. Charles se replace face à lui.
Puisque vous n'avez rien à me dire, je n'ai aucune raison de vous garder.
Je vous en supplie, pitié.
L'un des gardiens remonte la lame au sommet du support. En se déplaçant le long de son rail, le métal produit un crissement à faire frémir un innocent. Le loquet de blocage se réarme dans un déclic. Satisfait, il vient ensuite prêter main forte à son collègue. Tous deux empoignent fermement la planche sur laquelle est ligoté le misérable et la remorque jusqu'à l'échafaud. Le bougre tente de se débattre, mais ses liens l'en empêchent. Plus il gesticule, plus il mord de sa chair. Contrairement à l'usage charitable, il a été allongé sur le dos, de sorte qu'il aura tout loisir de voir le tranchant fondre sur son cou. Alors qu'on le fixe au plateau, il s'écrie :
Non, pour l'amour du ciel,
N'invoquez pas ce que vous avez trahi au moment d'en finir. » Les gardiens s'écartent. Addison saisit la cordelette. Le condamné pleure. Hockett s'étrangle. Charles n'a pas peur de soutenir son regard. Alors qu'il s'apprête à tirer sur le déclencheur, le condamné s'écrie « Je sais des choses !» N'inventez rien, mon ami. Je crois que vous m'avez tout dit. Inutile de prolonger ce moment pénible.
Attendez, je n'ai vu le mage qu'une seule fois, mais je ne me souviens plus où c'était.
Dommage pour vous.
C'était un cabaret, mais ce n'est qu'une façade, c'est là qu'il reçoit.
Charles assure fermement sa prise sur la cordelette. Ne vous en faites pas, nous trouverons. Reposez en paix et que le Très-Haut vous accorde son pardon. La cordelette se tend. Le prisonnier panique et hurle
« Le chat noir, c'est au chat noir !»
Addison tire un coup sec. La lame s'abat. Les yeux fous, l'homme voit la lourde lame se décrocher et foncer sur lui. Il pousse un cri horrible qui se prolonge bien après que la lame truquée l'a épargné. Chapitre 69. La rivière serpente entre les berges herbeuses plantées de pommiers sauvages. Avec la fin du jour, les oiseaux se sont tus et les grillons ont pris le relais. Le décor bucolique, agrémenté du fil sonore de l'eau, forme un écrin apaisant. Dans la brise nocturne, les massifs de roseaux ondulent légèrement. Le souffle du vent fait bruisser doucement leurs feuilles sèches. La température de cette soirée printanière s'annonce clémente. Gabriel a préféré attendre que l'endroit soit déserté pour venir s'y baigner. Pierre l'escorte tout en conservant une distance respectueuse. Il se contente de surveiller les abords. Sur la rive d'en face, le grand feu que les bohémiens ont allumé au centre de leur campement illumine la nuit. Leur silhouette se découpe dans la lueur des flammes dansantes. Des paroles indistinctes et quelques accords de violon s'échappent de leur assemblée. S'étant trouvé un coin tranquille au creux des herbes hautes, Gabriel ôte ses vêtements et les dépose sur les branches basses d'un arbre. Pierre perçoit le froissement du tissu, mais évite scrupuleusement de regarder dans sa direction. La jeune femme dénudée s'avance dans le flot. La fraîcheur de l'eau lui arrache un petit cri. « Tout va bien ?» lui demande son chevalier servant. « Ça va être un bain glacé, mais peu importe. J'ai tellement hâte de me sentir propre. Je n'en peux plus de cette suie. » Pierre l'entend se glisser dans l'eau. Il identifie les mouvements de ses bras, ceux de ses mains qui jouent dans l'onde. Le simple fait de l'imaginer le fait rougir. La jeune femme se détend, même si la froidure l'oblige à respirer rapidement. La rivière est plus profonde qu'il n'y paraît, constate-t-elle. Je n'ai pratiquement plus pied. Prends garde au courant. Elle immerge sa tête un bref instant et la ressort en haletant. Elle se met à se frictionner le corps énergiquement pour lutter contre le froid qui lui hérisse la peau. Demain, dit-elle, je laverai mes vêtements. Je ne sais même pas si cette odeur de fumée partira. De toute façon, je n'ai plus que cela. À la première occasion, nous en achèterons d'autres. La jeune femme passe ses doigts dans ses longs cheveux dénoués pour les démêler. Quand je songe à la belle robe bleue et blanche que tu m'avais offerte, soupire-t-elle, cela m'entriste. Je ne l'aurais portée qu'une seule fois. J'aurais tant aimé pouvoir la sauver des flammes. Nous sommes sains et saufs, c'est le plus important. Je t'en choisirai une autre, encore plus belle. Ce n'est pas tant la tenue que la jeune femme regrette que le symbole qu'elle représentait. Cette toilette était le tout premier cadeau que lui avait fait Pierre. Pour elle, qui n'en a pas reçu beaucoup, c'était important. La surprise l'avait touchée au plus haut point, d'autant que Pierre n'avait pas cherché ensuite à tirer parti de sa générosité. Gabriel avait jusque-là appris que les présents avaient toujours une raison d'être, surtout venant des hommes, et qu'il fallait tôt ou tard en régler le prix, d'une façon ou d'une autre. Elle s'était donc habituée à gérer des gestes de générosité qui tenaient de l'échange, des intérêts ou des rapports de force, en aucun cas des sentiments. Lorsque le jeune homme lui avait apporté la toilette dans un élégant papier de soie blanc, elle ne s'était pas réjouie immédiatement, redoutant que cette offrande ne constitue les prémices d'une demande, voire d'une exigence. Puis, les jours passant, voyant que Pierre n'avait rien modifié de son comportement vis-à-vis d'elle, elle avait fini par comprendre la réalité aussi affective que désintéressée de son geste. C'est alors qu'elle avait vraiment commencé à le regarder autrement. Elle s'était attachée à cette robe chaque jour davantage comme la preuve que, parfois, les hommes sont capables d'agir sans rien attendre en retour. En comparaison, tout ce qu'elle avait perdu d'autre dans l'incendie lui importait peu. Elle s'était souvent retrouvée sans rien, suffisamment pour savoir que posséder ou perdre un objet, en tout cas, ne change pas grand-chose à une existence. En entendant les éclaboussures d'un plongeon, Pierre s'inquiète. « Tu sais nager au moins ?»« Pas vraiment, mais je reste près du bord. » À travers les roseaux, Pierre ne peut s'empêcher de distinguer les courbes esquissées de la jeune femme. Dans un éclat doré, sa peau ruisselante accroche la lumière du feu de camp d'en face. « Gabriel ?»«
Oui ?»«
Une question me travaille, mais tu dois me promettre de me dire la vérité. »«
Pourquoi te mentirais-je ?»
Elle fait quelques mouvements pour ne pas laisser le froid la gagner.
« Je veux savoir si tu es heureuse avec nous. »
Il s'empresse de compléter, malgré tout ce qui nous arrive. La jeune femme prend le temps de réfléchir.
« Heureuse avec vous ?»
D'habitude, notre existence est plus calme, mais en ce moment, alors je me demandais, je ne voudrais pas que tu aies peur.
Gabriel reprend pied et rejette ses longs cheveux trempés en arrière. Comment veux-tu que je ne sois pas effrayée? Je suis comme vous. En pareille circonstance, n'importe qui se tournerait les sangs. Vous échappez à la mort tous les jours. Tu as failli te faire tuer sous mes yeux. Ils ont mis le feu à la maison et nous n'avons plus rien.
Pierre hésite à lui poser la seule question qui compte vraiment pour lui, mais l'enjeu est de taille.
Pourquoi me demandes-tu cela? S'étonne la jeune femme.
À défaut d'oser répondre, le jeune homme décide de se confier.
« Moi aussi j'ai peur, » déclare-t-il. « C'est vrai. Pourtant, ce qui m'épouvante le plus, c'est l'idée que tu puisses avoir envie de t'en aller. »
Il marque un temps, cherche ses mots. « Chaque jour, je fais ce que je peux pour te donner envie de rester. Évidemment, cela ne pèse pas lourd en comparaison des événements que nous subissons. Mais le fait est que, si tu partais, tu me manquerais terriblement. À dire vrai, je n'imagine plus vivre sans ta présence. »
Elle rit.
Pierre se dit d'abord qu'elle n'a peut-être pas compris. Comment pourrait-elle s'amuser alors qu'il lui ouvre son cœur?
« Je ne plaisante pas, Gabriel. »
« Je l'entends bien, Pierre. » Elle lève son visage vers le ciel étoilé.
« Tu sais, dit-elle, je n'ai jamais connu de vie facile. » Mais je n'ai pas non plus l'expérience d'une violence comme celle que vous affrontez. Pourtant, quoi que vous traversiez, je m'aperçois que les problèmes et les dangers sont dehors, pas dedans. C'est la première fois que je vis avec une troupe où chacun n'est pas en train de se demander ce qu'il va pouvoir voler à l'autre. Quand je vous regarde vivre, je comprends ce que compter les uns sur les autres signifie. Pour la première fois aussi, j'ai le sentiment que ce que je fais est apprécié. Je crois que l'on me respecte, que l'on se soucie de moi. Alors, quoi que nous ayons à subir, je serai toujours mieux avec vous que n'importe où ailleurs.
Tu ne vas pas partir? Cette idée surprend la jeune femme.
Je n'en ai pas l'intention, sauf si vous me le demandez, et j'en serai désolé.
Le jeune homme sent son cœur s'alléger d'un fardeau. Il bat plus vite, comme s'il allait s'envoler. C'est sûr, si Gabriel reste, alors il pourra tout affronter. Pour elle, il n'aura peur de rien.
Quelle que soit notre prochaine adresse, tu demeureras avec nous?
Avec vous?
Ou avec toi?
La question place soudain Pierre face à la réalité de ses sentiments. même si sa réponse est évidente, l'avoué l'obligerait à tellement se dévoiler que sa timidité s'y refuse. Il jette un caillou dans l'eau. Il est des mots que l'on doit impérativement prononcer, mais dont on redoute qu'ils soient entendus. Cependant, il murmure « Si tu savais ce que j'espère pour toi, pour nous. » Par-dessus les herbes hautes, la jeune femme lui expédie une grande gerbe d'eau. Pierre est saisi, tant par la pluie froide que par la liberté du geste. « Je t'ai entendu, » lance-t-elle. Surpris en flagrant délit d'affection, il reste muet. Pas elle. « Penses-tu vraiment que j'ignore ce que tu espères pour nous deux ?» L'esprit de Pierre s'affole. Il n'est plus capable du moindre raisonnement. Gabriel lui expédie une seconde vague d'eau et lui souffle. « Viens, viens me rejoindre. » Chapitre 70. Au centre du plan de la ville, déroulé sur son bureau, Charles désigne la rue des Vertus. De son index, il indique un pâté de maison précis. Si votre évaluation des distances sous terre est exacte, le passage qui s'est écroulé sur notre malheureux compagnon devrait se trouver quelque part sous cet ensemble-là. Vincent réfléchit. Qu'y a-t-il à cet endroit? Des immeubles d'habitation assez délabrés, quelques commerces et une fabrique d'ustensiles de cuisine en métal émaillé. Il est probable que ceux qui vivent dans les parages ignorent tout du tunnel qui serpente sous leurs pieds. Cavell gratte sa barbe naissante à laquelle il a du mal à s'habituer. Personne ne peut se douter qu'un tel ouvrage existe, approuve-t-il. Les pentes étaient telles lors de notre exploration que nous sommes forcément descendus bien au-dessous du niveau des caves les plus profondes. Il marque une pause. Savez-vous ce qui me déroute le plus avec ce tunnel, Charles? Addison fait non de la tête. D'ordinaire, un passage secret possède sa propre cohérence, née de sa raison d'être et de la culture de ses concepteurs. Mais celui qui nous occupe fait appel à des savoirs et des moyens qui déborde de loin l'arsenal de chacune des communautés qui auraient pu le bâtir. C'est-à-dire, il possède l'épure des passages agencés par les religieux, mais se montre plus retors et n'hésite pas à s'avérer mortel, ce qui va à l'encontre de leurs principes. Il est assez violent pour être né de l'imagination de brigands, mais jamais il n'aurait été capable d'y associer des systèmes de sécurité aussi complexes. Il pourrait également être l'œuvre d'adeptes de l'occulte, mais il fait appel à des sciences qu'ils n'ont pas l'habitude d'employer. Et nous n'avons trouvé aucun de leurs symboles, qu'ils sont pourtant prompts à disséminer. Soit c'est un exceptionnel mélange, soit quelque chose m'échappe. Comme si ceux qui l'avaient imaginé avaient pioché dans toutes les méthodes pour n'en retenir que le plus efficace. Si seulement nous savions vers quel lieu il mène. J'en ai parlé à mes compagnons. Certains peuvent nous apporter une aide précieuse et se sont aussitôt mis au travail. Le manuscrit de Loyola et la clé gravée sont en ce moment même à l'étude. Je suis impatient de connaître leurs conclusions. L'un de nos historiens a déjà pointé un fait qui me paraît de la plus haute importance. Vraiment ? En se penchant sur l'histoire de la maison de Flamel, et de la rue de Montmorency, il a déniché une information essentielle. Il y a de sérieuses chances pour que la propriété de l'alchimiste, aussi ancienne soit-elle, n'ait pas été la première construction à se dresser à cet endroit. Vincent est suspendu aux lèvres d'Addison qui poursuit. Il semble qu'avant l'établissement des premières maisons préfigurant la rue que nous connaissons aujourd'hui, l'emplacement a été occupé par tout autre chose. La construction de la demeure de Flamel date de 1406. Or, selon notre chercheur, un enclos, peut-être rattaché à un hospice ou même à une petite garnison, se trouvait là depuis déjà au moins deux siècles. L'environnement était alors bien moins citadin et quasiment perdu au milieu des champs et des bois. Un hospice ou une garnison, ce n'est pas tout à fait pareil. Quoi que ce fût, il est avéré qu'il s'y trouvait une sépulture assez grande pour être notifiée dans plusieurs inventaires et actes notariés de l'époque. Je ne parle pas d'une simple pierre tombale, mais au minimum d'un caveau ou d'une chapelle. Sait-on qui était inhumé là? Pas précisément, mais la parcelle appartenait alors à Enguerrand de Tardenay, connu pour son engagement dans la Troisième Croisade, dont il assura les opérations d'approvisionnement dans la région de Saint-Jean-d'Acre. Était-il lié aux Templiers? Son nom n'apparaît dans aucun registre de dignitaire, mais, étant donné sa fonction dans une région où les moines soldats opéraient en force, il ne fait aucun doute qu'il en a été proche. L'esprit de Vincent tente de relier cette information à ce qu'il sait déjà. Voilà en effet une pièce de choix pour notre puzzle. Cela tendrait à prouver que Nicolas Flamel s'est établi là pour s'approprier ou bien protéger cette entrée souterraine. Comment en aurait-il eu connaissance? Qu'il soit considéré comme un véritable alchimiste, un habile négociateur immobilier ou le chanceux découvreur d'un trésor, ceux qui ont étudié son histoire s'accordent à dire qu'il était initié aux arcanes des savoirs occultes. Cela ne nous dit pas pourquoi un accès était caché dans la sépulture auparavant. Dissimuler une entrée secrète dans une dernière demeure était une pratique relativement répandue. Comme dans les tombeaux égyptiens? Pas tout à fait. Les artifices déployés dans les tombes des souverains d'Égypte avaient pour unique but de protéger le repos éternel des défunts et les richesses déposées auprès d'eux pour leur vie après la mort. Leurs monuments funéraires étaient d'abord des coffres-forts. Ce n'est que bien plus tard, chez les Romains notamment, au moment des premières révoltes, que les caveaux furent utilisés par des conjurés, des opprimés ou des fuyards comme cache ou comme passage secret. L'aspect sacré a évité un temps que les autorités ne viennent les y débusquer. Personne ne soupçonnait alors que l'on puisse trouver refuge auprès des morts, dans des lieux sur lesquels planaient les pires superstitions. C'est ainsi que des gens qui n'avaient pas d'autre choix ont commencé à se réunir dans les caveaux, à s'y terrer, notamment les premiers chrétiens persécutés. Puis le phénomène s'amplifia encore avec le développement des catacombes. Avec l'usage, beaucoup ont également compris que les sépultures étaient des monuments que l'on ne détruit pas facilement. Les mausolées étaient réputés durer plus longtemps que les bâtis utilitaires. Ce que l'on y cache est censé être à l'abri pour l'éternité. De nos jours, remarque Charles, on déplace pourtant des cimetières entiers. Celui des innocents a bien été évacué pour créer les halles. C'est une pratique très récente qui ne concerne pas notre cas. La remarque conforte Charles. Il est donc plausible que la tombe ait abrité l'accès au tunnel avant que la maison de Flamel ne la remplace au même endroit. Vincent acquiesce. Les dates concordent. Il faut cependant espérer que ce n'était pas le seul accès au dédale, parce que l'effondrement de la section la plus profonde l'a rendu impraticable. À moins de le creuser à nouveau. Je ne parierai pas là-dessus. Des travaux d'une telle envergure, pouvant potentiellement déstabiliser les fondations des constructions au-dessus, nécessiteraient bien trop de moyens et sans la moindre garantie de résultat. Mieux vaut chercher ailleurs. Si d'autres voies existent, leurs entrées se trouveraient logiquement abritées dans des bâtiments datant de la même époque, aux alentours du XIIIe siècle. Cavell hoche la tête pour confirmer. Charles se désole. Vous rendez-vous compte du nombre de possibilités que cela représente dans une cité comme Paris ?